nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes au joie le mercredi 21 avril, il est 8h30. Il est au son ce que Maradona était au football et à la cocaïne, notre Zidane à nous, Corto, bonjour.
Et bonjour, mais t'as mes queues de flatterie ce matin.
Il est tout nouveau, il est avec nous pour 8 semaines, le temps de savoir par où tous les fils passent ici dans nos locaux, notre nouveau stagiaire qui nous demande tous les matins de touiller son café deux fois à droite et trois fois à gauche. Hugo, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir pour nous vraiment de t'accueillir. Alors j'ai pas tout compris à ce que tu faisais, du coup j'ai 2-3 questions à te poser, ce sera dans un instant. Vers 9h, nous serons avec Martin, il est musicien pour entre autres Zulu's Back Band, HK, il a créé l'Orchestre National de Sildavi. On sera avec lui par téléphone tout à l'heure, on parlera de comment ça se passe pour lui, pour eux en ce moment, et comme on va sans doute devoir patienter pour l'avoir puisqu'il n'est dispo qu'à 9h, pour une très bonne raison d'ailleurs, je vous propose de réécouter tout à l'heure une interview faite par les collégiennes de Florac, de Richard Scherrer sur la réserve internationale de ciel étoilé. Il y aura de la musique comme d'hab, mais Corto, si tu veux bien, on commence par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dévoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas.
Ah les amis, il y en a qui ont vraiment des problèmes de riches. En pleine pandémie, quand le monde tourne mal, alors que la faim dans le monde perdure et dure, alors que des gens dorment encore et encore dans la rue, Macron avait dit qu'il réglerait le truc, on verra ça plus tard, alors que les migrants à Calais se font défoncer, et quand l'Auxerre, ce ne sont pas moins de 29 personnes qui sont menacées d'obligation de quitter le territoire français, alors que nos hôpitaux, nos services publics en général sont abandonnés, alors que notre gouvernement a dépensé 3 millions d'euros simplement pour s'assurer qu'on ne les déteste pas, parenthèse, messieurs dames, là-haut, hein, pas besoin de tout cet argent, on vous aime pas trop, foutez cet argent ailleurs. Bref, quand tout part en vrille, le football fait la une. César disait, du pain et des jeux, et bien là, il nous vole le pain, mais il nous donne des jeux, du coup, tout va bien. Alors, j'aime le football, hein, j'aime bien y jouer, j'aime bien le regarder, mais comme je vous le disais lundi, je ne regarderai pas la Coupe du Monde au Qatar en 2022, entre esclavagisme et catastrophe écologique, ça craint. Oui, j'aime le foot, c'est comme ça, depuis que je suis tout petit, mais là, ça s'accumule. Alors, je m'en tape, moi, qu'un joueur gagne des millions, hein, c'est pareil dans la chanson, et ça ne nous empêche pas d'écouter de la musique. Ceci dit, ces footballeurs et leurs clubs ont vraiment des problèmes de riches. Voilà qu'avec la crise, ces mêmes clubs nous disent que si ça continue comme ça, dans 2 ans, ils n'auront plus un rond. Alors voilà que comme la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe ne leur rapporte que entre 2,5 et 3 milliards d'euros en tout par an, ces révolutionnaires capitalistes ont décidé de créer une Super Ligue européenne dont la première devait se passer en 2024. Alors... 12 des plus grands clubs européens ont annoncé lundi le lancement d'un projet de compétition, la Super League, qui viendrait directement concurrencer la Ligue des Champions. Alors, le projet a avorté hier soir, puisque 6 de ces clubs ont dit au revoir, c'est-à-dire les clubs anglais, donc les Espagnols et les Italiens, ils ont renoncé à cause des menaces proférées par l'UEFA et la FIFA, notamment que les joueurs qui participeraient à cette compétition ne pourraient plus jouer l'Euro avec leur équipe nationale, ni le Mondial. Autant dire que les pressions, ça a marché. Mais vous inquiétez pas, si ce projet de ligue, de Super Ligue européenne est abandonné. Ne vous inquiétez pas, les problèmes de riches reviennent assez souvent, paraît-il. Allez, on sera avec Martin par téléphone vers 9h. On écoute d'abord un morceau d'un de ses projets. C'était Macadam Bazar qui ont fêté leurs 10 ans l'année dernière. Le morceau s'appelle « Pour le meilleur et pour le pire ».
Je voulais pas être musicien, alcoolique pour deux sous, du vin et des copains.
Pour le meilleur et pour le pire,
trinque avec moi si tu l'oses, on s'inventera des souvenirs, l'amitié ça s'arrose.
Pour le meilleur et pour le pire,
j'ai regardé la météo, apparemment c'est pas pire, mais que demain il va faire beau.
Pour le meilleur et pour le pire,
j'ai toujours pas trouvé de boulot, mais je garde le sourire, et demain je ferai du bateau.
Facile et de
un morceau qui fout la pêche le matin, Macalam Bazar. Pour le meilleur et pour le pire. Alors, je viens d'avoir un message de Martin qui joue dans ce groupe, hein, voilà, et qui me dit que son héritier s'est réveillé un peu tard et qu'il va avoir un tout petit peu de retard. On sera donc avec lui à l'antenne à 9h15. Voilà, on va essayer de meubler, mais nous sommes en plateau et en direct avec notre stagiaire Hugo. Alors, Hugo, tu nous viens d'où ?
Eh ben, de Saint-Etienne, Vallée française.
Et avant, t'étais ?
En licence d'informatique à Montpellier.
Licence d'informatique, t'as fait les 3 ans ?
Non, en fait, j'ai arrêté en 3e année, du coup.
C'était quoi la raison ?
En fait, j'avais envie de partir sur une formation qui me permettrait de travailler directement après, plutôt que de faire le master, donc encore 2 ans, et après, pas être sûr de trouver du boulot, parce que j'ai arrêté en plein début Covid, donc ah ouais. C'était dans j'étais pas certain de pouvoir poursuivre, quoi.
Dur d'être étudiant en ce moment.
Exactement.
Alors, t'es parti en formation donc à Mende avec Pollen, c'est ça ?
C'est ça, voilà. Le nom, c'est Pollen. Donc, alors, c'est Paul Lozérien de l'économie numérique.
Ah là, tu l'as retrouvé assez facilement.
Voilà, ouais,
sans notes, sans rien.
Voilà, en plus.
Alors, comment t'as eu vent de cette formation ?
En fait, comme j'ai moins de 25 ans, j'ai 23 ans, je me suis orienté vers la mission locale pour savoir un peu ce qu'il y avait en Lozère. Et la conseillère m'a très bien orienté, du coup, puisque la formation correspond exactement à ce que je recherchais. Donc, c'est technicien réseau. Donc, ça complète, en fait, les connaissances que j'avais déjà en informatique. Et donc ça, oui, ça me convient parfaitement, donc j'en suis très content.
Mmh. D'ailleurs, en parlant de la mission locale, auditeur, auditrice, courant mai, ça devait se passer en avril, mais nous ferons un plateau, une émission avec nos amis de Télédrail, avec le directeur de la mission locale de Lozère. Alors, en quoi consiste ta formation ?
Eh bien, c'est une formation qui me permet de gérer en fait un réseau d'entreprises, que ça soit au niveau de l'installation ou de la maintenance. Au niveau du matériel, donc vraiment les livebox comme on a ici, les postes informatiques ou le côté logiciel plutôt. Et donc ça part d'une petite installation comme on a ici à la radio, donc avec une dizaine d'appareils, jusqu'à une très grande entreprise avec plus de 200 postes. Donc voilà, ça dépend du contexte.
La question que je me pose, t'es là 8 semaines, est-ce que tu vas pas t'ennuyer à un moment ?
Ben, pas vraiment en fait, parce que du coup il faut revoir tout le réseau.
Ah, ça c'est sûr. Faudrait même revoir le technicien, l'animateur, il faudrait tout revoir dans ce radio.
Non, mais quand on m'a parlé de cette formation, de ce stage, c'est qu'il faut revoir vraiment tout le réseau, et c'est bien parce que ça met en place tout le référentiel de la formation. Mais ça reste faisable en 8 semaines, puisque c'est quand même une petite infrastructure. Donc c'est beaucoup mieux, je trouve, que d'être dans une grande boîte avec 2000 postes à gérer. Là, c'est vraiment travailler à la chaîne pour faire de la maintenance. Alors que là, c'est vraiment, on part de zéro et on refait l'infrastructure entièrement.
Est-ce que là, dans votre formation, depuis, vous avez commencé quand, en septembre là ?
C'est ça, oui, fin septembre.
Et est-ce que vous avez pu bosser, comme on dit, en présentiel ? Parce que je suppose que pour bosser sur du réseau, il faut du concret, tu ne peux pas le faire en télétravail.
Exactement, oui. Donc on avait des jours en présentiel dans le bâtiment à Pollen et des jours en distanciel. Donc en fait, on a mis en place un réseau dans notre salle de formation qui était à l'intérieur du réseau du bâtiment Pollen. Donc on était isolés en fait pour ne pas aller déranger les autres, parce qu'il y a d'autres entreprises avec nous. Et on a mis en place en fait tout ce qui nous permettrait de travailler à distance. Donc après, de chez nous, on pouvait se connecter dans la salle comme si on y était. Donc moi de chez moi, bon, avec le réseau qui marche plus
bien. À Saint-Etienne, Vallée française.
Voilà. Avec le réseau de qualité, je pouvais me connecter et travailler à distance. Voilà.
Ouais, donc ça va, ça a été quand même, et vous avez réussi à passer.
Voilà, et tout ça en fait, on l'a mis en place du coup de zéro. On nous a fourni, on a récupéré des anciennes machines qu'ils avaient pour la région en fait. Ils nous les ont données, donc c'était des vieux serveurs et tout qu'ils ont dû changer. On a tout installé de zéro, on a mis tous les câbles et tout, vraiment comme dans une entreprise qui démarre en fait. Mmh. Et tout ça nous a permis de voir le référentiel de formation et de travailler en plus à distance, puisque bon, manque de bol, on a eu un peu un confinement à l'arrache au dernier moment en octobre,
c'est ça. Ouais.
Donc voilà, donc ça s'est fait un peu vite, mais on a réussi à le faire.
Ah, l'adaptation, c'est le maître mot en ce moment.
Voilà.
Est-ce que t'as un rêve, une envie de boulot, tu voulais bosser directement, ce serait quoi qui te ferait envie ?
Eh ben, écoute, ça serait la même chose en fait, donc faire de la maintenance sur un réseau, alors qu'il soit existant ou à mettre en place, mais peut-être dans une entreprise où il y a un peu plus de postes, une fois que je me serais fait la main. Sur des réseaux un peu plus petits. Donc après, je pensais partir vers Montpellier du coup, puisqu'il y a vraiment beaucoup, ça se développe beaucoup en fait en ce moment, justement. Bon, c'est peut-être pas positif, mais c'est à cause du Covid, le travail à distance se développe beaucoup, donc je pense trouver, oui, plutôt sur Montpellier, mais après, je suis ouvert à aller ailleurs.
Le malheur des uns.
Voilà, exactement. Malheureusement, mais...
Ouais, non, c'est le jeu. Qu'on comprenne, moi, tu vois, j'y connais rien. Je pense que tu l'as compris depuis les deux jours où t'es là. Les avantages de la fibre, puisqu'on nous la vante, là, depuis quelques années, maintenant.
Alors, en fait, ça permettrait de connecter plus de gens, en fait, sur moins de câbles, tout simplement. Pour moi, c'est l'avantage qui arrive en premier, donc... Les câbles en cuivre, ils sont installés depuis assez longtemps en fait, ça se base sur le réseau téléphone. Donc c'est vraiment une installation qui est très vieille, surtout en Lozère, puisque ça fait très longtemps qu'en fait c'est installé et que ça ne bouge pas trop. Alors là, ils sont plutôt en train de passer sur l'inverse, c'est-à-dire mettre le téléphone sur le réseau internet. Donc on le voit avec les numéros de téléphone sur les box et tout. Ça permettrait plutôt d'inverser le mécanisme et de passer sur une technologie qui est plus jeune. Et qui permettrait aussi de pouvoir évoluer. Donc là, on arrive vraiment à la limite. La DSL, ça... Enfin, quand les gens, là, on le voit, ils sont chez eux avec le Covid, ils sont sur Internet à regarder des vidéos, ils sont en travail à distance, en visio, tout ça. Et le réseau, il est vraiment tiré au bout. Plusieurs fois, moi, il y a eu des coupures. On l'a vu récemment, tous les élèves ont eu une coupure avec le logiciel Pronote, parce que bon, le réseau est vraiment saturé, là, on le tire vraiment au bout... Donc on le voit, et la fibre, ça permettrait justement d'avoir une meilleure qualité en fait de connexion pour tout le monde.
Pronote, c'était pas du piratage ?
Si, mais ça faisait aussi partie de... Enfin, c'est dans le contexte, voilà. On voit vraiment là les problèmes qu'on a avec le réseau actuel, l'infrastructure actuelle. Bon, à cause du Covid toujours, mais ça a aussi un point positif, c'est qu'on voit vraiment les points faibles de notre réseau en France.
Est-ce que, je sais pas, mais est-ce que tu dépendrais d'une boîte type Orange, Bouygues, SFR, j'ai cité les trois, merci le CSA.
Voilà.
Est-ce que tu bosserais pour ce genre de boîte, ou alors c'est vraiment une autre boîte des sous-traitants, entre guillemets ?
Bah, peu importe, en fait ça pourrait être des sous-traitants, mais ça pourrait être aussi une boîte par exemple comme OVH, il y en a qui ont entendu parler bon, récemment, leur entrepôt a brûlé à Paris, mais eux font beaucoup de réseaux en fait, et donc là suite à leur entrepôt qui a brûlé, ils doivent absolument tout refaire l'installation, donc là on parle d'un gros parc informatique avec plus de 10 000 serveurs qu'ils ont commandé du coup pour remplacer. Là, c'est une grosse installation, donc ça pourrait être aussi un travail comme ça, par exemple.
Mmh. Intéressant. Et à part les fils et les réseaux, t'aimes quoi dans la vie ?
Bah écoute, depuis toujours, en fait, je m'intéresse un peu à tout qui est électronique ou même bricolage et tout. J'ai fait du modélisme d'avion quand j'étais plus jeune. Donc ça consiste à fabriquer en fait un avion en bois et le faire voler, donc il a volé, point positif. Mais ouais, voilà, je m'intéresse un peu à tout en fait, toujours, oui, manuel et du côté informatique aussi, bah, là, j'ai toujours eu un ordinateur entre les mains, donc voilà, c'est pour ça que ce métier m'intéresse aussi.
C'est ça, c'est fou, puisque tu gères Linux, les lignes de code, comment on se met à ce truc-là ? J'avoue, je comprends rien, moi, ces lignes de code, c'est n'importe quoi. Comment on se passionne pour ça ?
Eh ben, en fait, mon premier ordinateur que j'ai eu, j'étais au collège, parce que là où j'étais avant, dans les Bouches-du-Rhône, ils nous ont fourni un PC portable en quatrième. J'ai pris ce PC et je me suis dit, bon allez, j'ai envie de tester un Linux, et j'ai installé Linux. Bon, j'ai raté l'installation, le PC ne marchait plus, ça faisait deux semaines que je l'avais. Donc j'étais content.
Un bon début.
Voilà, et bah, donc je me suis débrouillé parce que personne autour de moi ne savait comment ça marchait. Donc bon, il remarchait, du coup ça va. Mais ouais, voilà, j'ai commencé comme ça en fait, complètement au hasard. C'est un copain à moi qui m'en avait parlé, il m'a dit, tiens, regarde ça, c'est pas mal et tout. Je regarde, je fais, ouais, j'installe, et voilà.
C'est quoi le principe de Linux ?
Bah, c'est un système d'exploitation, donc c'est ce qui permet d'utiliser en fait l'ordinateur. Donc, par exemple Windows, que tout le monde connaît. On a des programmes, on a le navigateur web dedans, on a le lecteur de musique, le lecteur vidéo, tout ça. Bah, Linux, en fait, ça permet d'avoir un environnement équivalent, mais qui est différent, tout simplement. Et aussi, il faut savoir que Linux, c'est très peu utilisé pour les environnements de bureau pour les particuliers. Donc, la plupart des gens chez eux ont Windows. Mm-hmm. Mais pour les serveurs, la grosse majorité des serveurs dans le monde sont sous Linux. C'est-à-dire plus de 80% tournent sous Linux.
Ok, c'est quoi les avantages ?
Il y en a plein, mais c'est surtout qu'en fait, c'est prévu vraiment pour ça, pour faire tourner des serveurs. C'est très stable, c'est des distributions très anciennes, mais c'est pas une critique, en fait, c'est justement mieux qu'elles soient très bien, très anciennes, puisque en fait, elles ont été testées vraiment dans la durée, donc on sait qu'elles sont stables, il n'y a pas de problème. Les sites web aujourd'hui ne plantent plus en général.
sauf à Radio Bartas.
Oui, voilà. Mais en général, les sites web aujourd'hui, ils utilisent des solutions qui ont été approuvées dans le temps. Ça fait vraiment des décennies que c'est utilisé pour faire des serveurs web. Donc l'environnement mis à disposition des développeurs web est principalement sous Linux.
Quand tu dis stable, ça veut dire moins menacé par des virus ou
Alors, en partie, mais c'est surtout que l'ordinateur ne va pas planter spontanément, en fait. Tout simplement, ça tourne. Moi, j'ai un serveur chez OVH. Ça fait 400 jours que je ne l'ai pas redémarré. Il tourne très bien. Et en fait, la plupart des sites web sont comme ça. Si on regarde, ça fait, ils ne peuvent pas les redémarrer parce que quand le serveur redémarre, le service est coupé. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire une coupure de service uniquement parce que le serveur demande à faire les mises à jour, comme Windows nous affiche le petit message tout le temps en plein écran, il faut redémarrer le PC. Ça, c'est impossible pour un serveur utilisé pour des sites web ou même pour des services comme pour le téléphone, par exemple, pour les WhatsApp, pour les messages. Enfin, plein de services utilisent des serveurs en arrière-plan qui ne peuvent pas se permettre de redémarrer, de planter, de... voilà.
T'arrives à me passionner sur l'informatique, pas mal.
Bah, tant mieux, tant mieux.
Est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs, à nos auditrices, ce qu'est un NAS ?
Alors un NAS, pour faire simple, c'est un stockage de données qui est sur un réseau. Donc ça permet d'avoir un gros volume de données, donc c'est une grosse clé USB, qui est accessible en fait par tous les postes sur un réseau. Donc par exemple à la maison, si j'ai un NAS dans le salon, et que je suis sur mon téléphone, eh ben je peux m'y connecter et récupérer des musiques, des films ou quoi, n'importe où, par le Wi-Fi ou quoi. Donc c'est un stockage sur le réseau, tout simplement.
Et c'est ce qu'on a, ouais, c'est une capacité énorme en fait.
Voilà, en fait, on met des gros disques durs dedans, on en met plusieurs, et aussi ça a un très gros avantage, c'est que si un des disques durs casse, ça arrive, c'est des disques durs mécaniques, donc il y a toujours des points faibles dans les disques durs qui font qu'après 5-6 ans de fonctionnement, ils cassent. Si un disque casse, en fait, ils sont prévus pour pouvoir toujours fonctionner. Il suffit de remplacer le disque dur et c'est reparti, tout simplement. C'est ce qu'on a ici et il le faut, puisque si on perd les données, je suppose que c'est pas...
Ah, c'est pas bien.
Voilà, c'est pas bien, oui.
C'est pour ça qu'on a fait plein de sauvegardes. Voilà. Et puis qu'on en rachète un, surtout. Parce
oui, surtout.
Que le nôtre commence sérieusement à battre de l'aile. On va changer légèrement la prog, puisque Martin a un tout petit peu de retard. Merci beaucoup, Hugo. C'était ta première radio ?
Oui, c'était ma première.
Nickel. Du coup, on va mettre la piste juste après. C'est le morceau de Zulu's Big Band, juste avant de réécouter l'interview de Richard Scherer. Je vais y arriver. Donc le morceau c'est Morishai, c'est Zulu's Big Band et on sera vers 9h15 avec Martin, l'un des musiciens, par téléphone. Vous les avez sans doute vus plus d'une fois dans notre belle région Zulu-Uzbek Band. Le morceau, c'était Morishai. En septembre dernier, j'avais pu aller au collège, donner l'atelier. Et dans le cadre des 50 ans du Parc National des Cévennes, les collégiennes avaient interviewé, d'ailleurs, et de grande manière, elles avaient tout fait. Elles avaient interviewé Richard Scherer, qui est chargé de mission au Parc National des Cévennes, et qui s'occupait, entre autres, et qui s'occupe d'ailleurs de la réserve internationale de ciel étoilé. En attendant de retrouver Martin, ce sera vers 9h15, je vous propose de réécouter cette interview.
Nous sommes pour Radio Bartas avec Monsieur Scherer. Bonjour.
Bonjour.
Pourriez-vous vous présenter ?
Donc Richard Scherer, je travaille au Parc National des Cévennes depuis 13 ans. Je suis délégué territorial sur un secteur géographique, donc au-dessus de Florac, donc le Côte-Méjean, le hameau du Villarège. Et parmi mes missions, je m'occupe du suivi de la réserve internationale de ciel étoilé.
Ok. C'est quoi le RIS et depuis quand a-t-on ce label en Cévennes ?
Alors, c'est la RIS, donc c'est une réserve, donc c'est féminin, Réserve internationale de ciel étoilé. Donc, c'est un label décerné par une association américaine, donc qui s'appelle IDEA, International Dark Sky Association. Donc, c'est une association d'astronomes amateurs et des professionnels qui a mis en place un label qui est ouvert à qui veut, en fait, qui décerne, en fait, qui reconnaît la qualité d'un territoire et la qualité de la nuit, en fait, et le nombre d'étoiles qu'on voit, en gros. Donc, c'est un label qui est décerné après un dossier de candidature. Donc, il faut rédiger, réfléchir. Il y a plusieurs critères, mais on pourra en reparler. Et donc, nous, on a candidaté à ce label en 2017 et on l'a obtenu en 2018. Voilà, donc ça fait bientôt 3 ans qu'on a ce label. Il y en a en France, il y en a 2 en plus de nous. Donc, le Pic du Midi et dans le Mercantour. Et dans le monde, il y en a 13. Donc, on est la 13e, on était la 13e au monde. Maintenant, il y en a 14. Donc, c'est quelque chose d'assez prestigieux qui reconnaît, si on regarde la carte de la France de nuit, donc vous voyez ces photos satellites de nuit, des satellites qui passent en Europe, on voit très bien les grandes villes et l'éclairage public. Et au milieu de ces énormes zones, la vallée du Rhône, Paris, voilà, les énormes zones urbaines, on voit des taches très sombres, en fait des lieux où il y a très peu d'habitants et donc du coup très peu d'éclairage public. Et il y a la Lozère, voilà, il y a le Parc National des Cévennes au milieu.
Qui a eu l'idée et d'où est-elle venue ?
Alors l'idée, elle vient de la charte. Donc la charte, c'est le projet de territoire qu'on a élaboré avec avec l'ensemble des acteurs ici en 2011-2012, où on avait mis un petit sujet sur à destination des communes, donc travailler sur améliorer la qualité de votre éclairage public. Et à partir de là, on a déroulé une pelote de fil. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait ce label qui existait, donc de réserve internationale de ciel étoilé. Et du coup, on a fait le lien entre, on peut travailler sur l'éclairage public, améliorer en fait l'éclairage public, et essayer d'obtenir ce label. Donc le but, c'était de dire, à travers ce label, qui est prestigieux, international, on va tirer vers le haut le territoire, et on va dire aux gens, aux communes, travaillez sur votre éclairage public, donc travaillez sur les lampadaires, la qualité des lampadaires, mais on y reviendra. En gros, pour que les lampadaires éclairent au sol, baisser la puissance, éclairer au sol et pas éclairer les étoiles. C'est ça l'enjeu. Et puis couper, si on veut et si on peut, on peut couper la nuit aussi, à partir de minuit jusqu'à 6 heures grosso modo. Et à partir de là, on a proposé, avec des fonds publics, on a été chercher de l'argent, aux communes de rénover leur éclairage public. Et le lien, c'était, le but, c'est d'essayer d'avoir ce label international en déposant un dossier de candidature, quoi.
Et quelles sont les démarches pour obtenir finalement ce label ?
Alors c'est un dossier, c'est un pavé, si on résume, c'est un gros dossier qui fait à peu près de 100 pages, où la première chose, c'est mesurer la pollution lumineuse. Donc on s'est promené avec des appareils, et là les astronomes amateurs nous ont beaucoup aidés. Donc il y a des petits appareils, ça s'appelle des SQM, c'est des Sky Quality Meters. Donc en gros, c'est un petit appareil avec une petite cellule qui mesure la pollution, donc l'éclairage public, qui vient depuis le sol. Donc on s'est promené, nous, et on était une bonne quinzaine avec des astronomes, sur le territoire pour mesurer la qualité de la noirceur du ciel, en fait. Donc ça, c'était la première étape. Et puis ensuite, il fallait montrer qu'on faisait plein de choses. autour de sensibilisation, d'actions dans les écoles, d'actions de randonnée astronomique, d'actions de sensibilisation. Et puis, il fallait aussi montrer que le territoire, donc les élus, sont avec nous. Donc, il fallait avoir l'accord des élus. Et puis, l'autre chose, c'était aussi d'avoir un diagnostic, un état des lieux du parc de lampes, de lampadaires publics. Alors, surtout sur la zone cœur du parc. Et puis aussi avoir une vision de tout ce qu'il y avait un peu autour. Voilà, le dossier, c'était ça en résumé. Et puis, donc, on a écrit ça en anglais. Donc, c'est là qu'il faut trouver des gens qui ont travaillé bien l'anglais à l'école. Et puis, envoyer ça aux Américains, discuter avec eux. Il y avait eu un peu d'aller-retour sur des choses qui n'étaient pas complètes. Et puis ensuite, voilà, ils ont examiné ça et nous ont décerné le label, quoi.
Est-il vrai que nous sommes la plus grande réserve étoilée d'Europe ?
C'est ça. Voilà, c'est la plus grande. Donc, les autres qui sont présentes, donc il y en a le Pic du Midi, qui est un peu plus petit. Il y en a plusieurs en Angleterre, en Allemagne, qui sont à des tailles un peu plus petites. Et nous, on a mis tout le territoire du cœur de parc, donc la zone qui est labellisée cœur de parc national. Donc, c'est en gros, c'est 90 000 hectares, donc ça fait 900 km². C'est les sommets, une partie du sommet du Causse-Méjean, le sommet de l'Aigoile, le haut de la Canne de l'Hospitalet, et puis le sommet du Mont-Lozère, donc, qui correspond à la zone cœur du parc national, quoi. Donc c'est grand, effectivement, et c'est habité.
Et quel est l'intérêt d'avoir ce label ?
Alors l'intérêt, c'est déjà de rentrer dans ce club un peu prestigieux, de dire on a ce label, on est réserve de ciel étoilé, parce que derrière, ça veut dire qu'on a une très belle qualité de ciel étoilé, et ça veut dire aussi qu'on sait que dans la communauté des astronomes amateurs, on est reconnu, et que derrière, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir ici, et c'est ça aussi l'intérêt, pour venir voir les étoiles. Parce qu'ils savent qu'ils viennent, il y a peu de pollution lumineuse, soit ils s'intéressent à l'astronomie, et ils le savaient déjà un petit peu, soit ils s'intéressent un peu de loin, et ils vont se dire, bah, tiens, je vais aller dans cet endroit-là. Et du coup, l'idée, c'est de créer autour de ça des gîtes qui vont se positionner un peu sur ce créneau, des gens qui vont faire des sorties astronomie, contes de la nuit, et puis aussi, surtout, de mobiliser les élus pour leur dire, il faut améliorer votre éclairage public, rénover, couper si vous voulez la nuit, mais améliorer votre éclairage public, parce que souvent au fil des ans, voilà, les éclairages, il y a encore pas mal d'endroits où on a ces lampadaires, ces gros lampadaires, vous voyez, ces lampadaires boules, qui sont des boules de verre en fait, avec la lampe au milieu et qui éclairent plus le haut que le sol. Et le but d'un éclairage public, c'est d'éclairer au sol.
Vous venez d'en parler, mais est-ce que les communes jouent le jeu ?
Oui, elles jouent très bien le jeu. En Lozère et dans le Gard, parce que vous savez que le parc national est à cheval sur deux départements. Donc côté Lozère, il y a un syndicat qui gère l'éclairage public pour le compte des communes, donc c'est le SDE 48, c'est un syndicat d'électricité et d'énergie, donc qui a très bien joué le jeu depuis le départ. Et dans le Gard, il y a un autre opérateur, même chose, un syndicat qui s'appelle le SMEG, et qui lui aussi gère l'éclairage public pour le compte des communes. Et oui, les communes ont très bien joué le jeu. Après, on les a beaucoup aidés en leur apportant des financements publics, parce que c'est des coûts. Rénover une lampe, un lampadaire, hein, grosso modo, c'est entre 800 et 1000 euros. Donc ça fait des sous pour un maire, dans des collectivités, des territoires où il n'y a pas forcément toujours beaucoup, beaucoup d'argent. Donc ça va beaucoup mieux quand il y a des subventions, parce que c'est plus facile à amortir. Mais oui, ils ont très bien joué le jeu.
Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il n'y ait plus d'éclairage public dans 50 ans ?
Oui, on peut l'imaginer. Oui, tout à fait. Peut-être que ça sera la mode dans 50 ans de plus avoir d'éclairage public. Mais aujourd'hui, oui, je réponds oui. Et sur le territoire, il y a, alors c'est peut-être des précurseurs, il y a trois communes. Une en Lozère, donc c'est Gabriac. Dans le Gard, il y en a une autre, c'est Pérol. Et il y en a une troisième qui n'ont pas d'éclairage public du tout. Alors souvent, ce sont des très petites communes. Mais si vous allez voir le maire de Gabriac, il est passionné par le sujet. Et depuis qu'il est maire, donc ça fait, en tout cas depuis que la mairie a pris cette décision, ils n'ont jamais eu d'éclairage public. Et quand il y a des gens qui arrivent dans cette commune, il dit, nous, on n'a pas d'éclairage public parce qu'on n'a jamais éprouvé le besoin d'en avoir. Si vous en voulez, vous pouvez en mettre dans votre jardin ou dans votre cour, au-dessus de votre garage, mettre une cellule avec une petite lampe. Mais la commune a décidé de ne pas avoir d'éclairage public. Après, c'est un peu utopique malgré tout, mais voilà, oui, on peut l'imaginer.
Merci Monsieur Scherrer d'avoir répondu à nos questions. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Voilà pour cette interview. Tiens, coupe les enceintes, mon corto, tout va bien. Les enceintes. Voilà, c'est beaucoup mieux. Cette interview qui avait été réalisée par les collégiens, l'atelier radio, les collégiens que j'embrasse, qui me manquent. Voilà, parce que j'avais la chance de faire un atelier par semaine avec eux et elles. J'espère pouvoir y retourner assez rapidement. De même que j'embrasse mes aînés de la maison de retraite de Florac, avec qui je n'ai rien pu faire cette année. Et ça me manque beaucoup. Petite parenthèse avant, puisque là il nous reste quand même une petite dizaine de minutes avant d'avoir Martin au téléphone, notamment pour parler d'un morceau qu'on va écouter dans un instant, de l'Orchestre National de Sildavie. J'ai fait une petite boulette sur le site internet, puisque j'ai utilisé une photo qui n'était pas libre de droit. Ainsi, le mec qui a pris la photo, qui est une photo qui a été prise par un drone, a porté plainte contre nous et on a dû payer. J'en ferai mon édito lundi, voilà. L'erreur est humaine et lui, il nous a pas fait de cadeau. Je vous expliquerai tout ça dans les détails lundi. On va patienter encore un tout petit peu avant d'avoir Martin au téléphone. On va écouter d'ailleurs un morceau d'un nouveau projet qu'il a et dont il va nous parler, qui s'appelle l'Orchestre National de Sildavie. Le morceau s'appelle Allo Malo.
Раз, два, три, четыре.
L'Orchestre National de Sildavie, le morceau c'est Allo Malo, nous serons avec Martin dans un instant par téléphone. Pour vous donner aussi une petite info, de jeudi et vendredi, il y aura une petite interruption de nos programmes habituels, on va mettre une playlist. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va en profiter qu'on est un stagiaire et puis un super technicien pour tout débrancher et tout rebrancher en fait et faire les choses un peu plus proprement. Voilà. N'hésitez pas non plus, auditeurs, auditrices, à nous proposer de la musique. Envoyez-nous tout ce que vous voulez et si ça correspond évidemment à la couleur de notre antenne, vous nous l'envoyez à contact@radiobartas.net. Nous, ça nous fait toujours plaisir et ça nous donne parfois des idées. Alors évidemment, on a 15 000 morceaux, je crois, dans notre NAS. Hugo vous a expliqué ce qu'était un NAS tout à l'heure. Mais voilà, on est friands de nouveautés. Il a participé aussi à ce projet. J'attends un message pour me dire dès qu'il sera disponible, puisqu'il doit, comme il m'a dit, emmener son héritier chez la nounou. Voilà, c'est comme ça. On sera avec Martin. Du coup, on va écouter un morceau qui a fait le buzz là depuis quelques mois. Un morceau d'HK et il y a participé Martin. Le morceau, c'est... comment il s'appelle le morceau déjà ? Je ne sais plus.
Danser encore.
Ah oui, danser encore. Le truc il passe mais en boucle partout et danser encore. HK, c'est parti.
continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vues sur une grille d'accord. Oh non 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 non, nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages. Nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance.
Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience.
Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Non, non,
nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance les instruments de leur démence.
Oh non 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 non, nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Oh non 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 non,
nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh,
danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
HK, et oui, danser encore. Il sera avec nous dans un instant, Martin, l'un des musiciens qui a participé à ça. J'attends de ses nouvelles. En attendant, je vous propose qu'on passe un tout petit peu de musique, le temps que tout ça se mette en place. À tout de suite. Direct, on reprend le direct, vous êtes bien sur Radio Barthas, vous êtes bien sur le 107, tu peux monter le fader du téléphone et nous sommes en direct, si tout marche avec Martin, bonjour.
Salut à toi.
Ça fait plaisir de t'entendre, tu es accordéoniste, chanteur des Zoulousbek, bande de l'Orchestre National de Sildavi, t'as plein de projets, on va en parler, merci d'être avec nous. Alors comment ça se passe pour toi en ce moment? Dur la culture, hein.
Oui, alors on en profite pour créer des petits projets, de répéter beaucoup, de faire des choses comme ça, mais ouais, c'est pas évident de garder la motivation et d'essayer d'aller de l'avant, mais après, moi j'ai la chance personnellement d'être intermittent du spectacle et de pouvoir bénéficier encore d'argent tous les mois qui tombe. Donc je vais pas cracher la soupe, mais c'est surtout pour les copains qui sont pas intermittents, tout ça, qui travailler différemment, que là c'est un peu compliqué.
C'est sûr. Alors en tout cas, ça n'a pas étouffé ta soif de création, puisqu'en 2020, vous avez créé un nouveau projet, l'Orchestre National de Sildavi, un hommage à tes racines et à Tintin, non?
Alors je suis pas sildave, mais effectivement je suis d'origine polonaise, et j'avais envie depuis longtemps de faire un groupe dédié exclusivement, on va dire, aux musiques d'Europe de l'Est et en particulier polonaise. Et du coup, voilà, vu qu'on a du temps en ce moment, effectivement, c'était l'occasion de se pencher là-dessus. Donc là, voilà, une nouvelle formation. On est 5 musiciens. Il y a 2 très bons violonistes. Moi-même, accordéon, un guitariste manouche assez excellent aussi. Et un merveilleux contrebassiste également. Et moi, ça m'a permis aussi d'écrire un petit peu en polonais des chansons que je me permettais pas d'écrire avant, forcément, dans les différents projets. Et d'écrire un peu en polonais, ce qui me fait bien plaisir. Et de reprendre aussi, on fait un peu de musique traditionnelle de quelques pays limitrophes, on va dire. Voilà, et c'est pour ça, la Sildavi, c'est un petit clin d'œil à cette espèce de pays de l'Est fantasmé qu'on peut avoir un petit peu dans notre inconscient par rapport au sceptre d'autocar de Tintin d'Hergé. Et voilà, dans Sildavi, ça regroupe un peu tous ces clichés, on va dire, des pays de l'Est qu'on a pu avoir à une époque, et je trouvais que ça sonnait bien, Orchestre National de Sildavi, ça fait un petit peu un titre honorifique d'un pays qui n'existe pas, ça fait plaisir. Ouais.
Comme le Belgistan avait créé la fanfare du Belgistan, c'est génial. Effectivement. Et alors, donc tu l'as dit, c'est une évolution de Zulu's Big Band. Comment vous bossez ensemble?
Comment on travaille ensemble, bébé? Écoute, on travaille ensemble, on se met autour d'une table et on joue, ouais. Là, en fait, on a fait plusieurs résidences de quelques jours, des résidences, c'est-à-dire qu'on répète dans un même lieu pendant 4-5 jours d'affilée. Et on a plutôt travaillé comme ça, c'est-à-dire que moi, j'apporte les morceaux, alors soit des créations, soit des reprises. Et j'apporte donc les accords, les mélodies, et après on les travaille, on les peaufine, on les améliore tous ensemble, on crée les arrangements tous ensemble, voilà.
Et vous avez gagné un concours, les Nuits Métisses de Miramas, ça va vous permettre des belles choses.
Effectivement, on a participé à un petit dossier de, je sais pas comment on appelle ça, un dossier de candidature là. Et voilà, on a été sélectionné parmi, il y a eu d'autres groupes, hein, c'était toute la région sud, PACA. Et il y avait pas mal de groupes qui ont candidaté et on a été quelques-uns à être sélectionnés pour bénéficier de résidence une fois plus. Alors là, ça va se passer au Portail Coupou à Salon de Provence, donc une belle salle de concert. Et on a gagné quelques jours d'enregistrement dans un studio à côté d'Avignon. On va faire quelques concerts en partenariat avec les Nuits Métisses aussi. Enfin voilà, un petit coup de pouce qui nous est bien utile en ce moment, parce que avoir des projets, comme je disais, c'est compliqué. Et au moins ça nous fait des projets un peu fixes. Voilà, donc on les remercie bien grandement, les Nuits Métisses de Miramas. Et voilà, là on peut, au moins on a ce projet en tête de résidence, de création d'album, tout ça qui va se passer dans les mois à venir.
Donc l'album, ce sera en septembre 2021, quelque chose comme ça?
Ouais, voilà, l'album on va l'enregistrer en septembre, parce qu'on a du coup, on pouvait le faire en mois de juin, mais on s'est dit qu'on allait laisser passer l'été, parce qu'on a quand même quelques concerts de prévus, j'espère qu'ils vont avoir lieu. On va croiser les doigts, ouais. Donc voilà, on a une dizaine de concerts avec ce projet-là cet été. Et voilà, et donc on va faire un peu ces concerts-là, et comme ça on aura rodé un peu les morceaux en public pour pouvoir enregistrer après ça sereinement à la rentrée.
Tes projets étaient un peu le fil rouge hein, dans cette émission. On a écouté Macadam Bazar, Zulu's Big Band, HK. On écoutera encore tout à l'heure un morceau de l'Orchestre National. C'est bien, c'est qu'avec toi, on peut faire une programmation musicale vraiment variée. C'est riche. Alors justement, rassure-moi, parce que c'est un groupe qu'on adore, nous, ici, sur Radio Bartas. Macadam Bazar, c'est pas fini? On a des chances de vous revoir?
Alors c'est pas fini, on continue évidemment. Après c'est toujours pareil, c'est cette histoire de projet qui est compliquée à visualiser. L'an dernier on avait une vingtaine de concerts de prévus dans différents festivals, différents petits festivals un peu partout, enfin surtout le sud, mais même en Bretagne, tout ça. Cette année, ces 20 concerts ont été annulés l'an dernier, et cette année parmi tous ces concerts-là, il n'y en a que 5-6 qui ont été reconduits, parce que les autres festivals ont lâché l'affaire. En fait, ils se lancent pas dans le... Ils tentent même pas cette année. Donc voilà, on espère faire quand même ces quelques concerts. Le projet continue un peu différemment. On est plus que 4 musiciens. Mais toujours avec les textes de Rébi et les miens en français pour le coup.
Ouais.
Voilà, le projet continue. Là, on a quoi de on va jouer à Sénas le 19 juin, on va jouer à Grenoble le 21 juin, et après on va jouer en Bretagne. J'ai oublié la date, à un festival à Éléon, mais ça je sais plus. Enfin voilà, mais c'est en train de se mettre en place, et encore une fois, tous les jours on a des appels pour dire en fait on décale, on annule, on reporte, on sait plus. Voilà.
Ouais, c'est ça, les programmateurs sont frileux, hein, donc c'est sûr que ça va pas être facile.
Ouais, après je comprends l'histoire. Organiser des festivals sans buvette, tout ça, du coup tu peux pas financièrement, c'est compliqué pour organiser une fête où tu peux pas faire des rentrées d'argent de restauration, de bar, voilà.
Ouais, tu m'étonnes. Alors, comme tu es boulimique de musique, il y a eu une formidable levée d'énergie avec un morceau qui s'appelle « Danser encore » du Grand Kadour, alias HK. Alors, vous attendiez un tel phénomène, ça le chante et ça se danse, mais partout, c'est assez incroyable.
C'est assez incroyable, ouais. Non, ça, forcément, ça ne perdait pas ça. Nous, on a enregistré ça, en fait, un peu à l'arrache ou comme ça, sans réfléchir. En fait, Kadour, on se connaît depuis quelques années, on fait des concerts ensemble. Donc lui, il a son groupe HKL Saltimbank avec ses musiciens, tout ça, dans le nord de la France. Et le fait est qu'il descend souvent dans le sud, vers Martigues, Marseille, même Avignon, faire des concerts plus des concerts militants, des concerts de soutien pour des associations, des collectifs d'aide aux migrants, aux sans-papiers ou alors sur d'autres thématiques. Il fait des ateliers, il fait pas mal de choses comme ça, je veux dire avant le Covid aussi. Et donc nous, on était un peu son équipe de musiciens dans le coin pour faire ces concerts militants, ces choses-là. Et donc là, au mois de décembre, novembre, je sais plus, était en résidence de théâtre, parce qu'il fait du théâtre aussi, dans un petit théâtre à côté de chez moi, à Avignon. Et on s'est croisé, on savait qu'on était là, voilà, on s'est croisé un peu dans la rue, et il m'a dit, prends ton saxophone, on va, parce que du coup dans ce projet-là, je fais du saxophone, on va faire une chanson que j'ai écrite hier, et du coup on l'a absolument pas vraiment répété. On a croisé un copain tromboniste qui habite dans le quartier aussi. On est allé faire cette chanson un peu, voilà, on l'a jouée deux fois et effectivement depuis on est bien content parce que elle est tombée à un moment où les gens et moi-même et tout le monde, enfin je dis les gens mais j'en fais partie, on avait besoin d'entendre une voix un petit peu différente, un petit peu voilà, un petit message de effectivement n'oublions pas que la vie culturelle, ça se fait en live, ça se fait pas que en streaming, ça se fait danser encore, on se touche, on a besoin de ça. Et c'était un peu le seul message dans ce sens-là qu'on a pu entendre. Alors en tout cas celui qui a été relayé quoi, à ce niveau-là. Et voilà, maintenant effectivement il y a des milliers de versions différentes, des gens qui la chantent en plein de langues différentes. Donc ça fait bien plaisir et voilà, donc là nous on est content d'avoir fait ça on est surpris, on est les premiers surpris de l'ampleur du truc.
Beau partage et belle énergie, alors évidemment tu l'as abordé hein, pour bien connaître Macadam, Zoulouse ou bien connaître Ashka, vous êtes très militant, l'époque actuelle manque pas de combat à mener, vous allez continuer à vous inscrire dans cette veine là et tu m'as dit dans le mail que tu m'as envoyé qu'il y avait un EP en préparation avec Ashka.
Oui, alors dans la même idée en fait de cette spontanéité là où je te dis on a enregistré, on a fait ce petit clip vidéo un petit peu comme ça sans répéter. Pardon. Et du coup, en fait, Kadour il nous a proposé d'enregistrer quelques chansons. On est parti sur 5-6 chansons, pas plus. Qu'on enregistre à côté d'Avignon aussi dans un petit studio qu'on a monté dans un salon. Enfin, c'est pas vraiment un studio. Et chez Hélène, que je salue. Et du coup, voilà, on enregistre. Alors, ce qui est marrant chaque fois, c'est qu'on se pointe. Par exemple, on a rendez-vous la semaine prochaine. On a deux jours de session studio, mais on ne sait pas ce qu'on va enregistrer. Et Kadour nous arrive avec sa chanson. Il nous chante la mélodie. Et nous, on pose les accords, on trouve les arrangements assez vite. C'est pas du travail de longue haleine, quoi. C'est vraiment, on essaye de faire ça comme on a fait la première chanson dans son corps. Mm-hmm. On fait ça en instantané et on enregistre la chanson une heure ou deux après l'avoir découverte. Voilà, donc ça a un résultat. Alors c'est frais, c'est authentique. Après, on n'a pas on n'est pas sur de la, c'est un peu de la musique voilà instantanée de rue, mais on CD. Et c'est très sympa aussi.
Hâte d'écouter ça en tout cas. Alors, beaucoup disent qu'il va y avoir embouteillage pour les spectacles, puisque la création reste autorisée, mais pas les spectacles. C'est quoi ton point de vue là-dessus?
Ouais, j'en parlais avec la copine qui tient le théâtre justement à côté de la maison où on répète, où on fait les résidences. Effectivement, en ce moment, il y a énormément de création et en même temps, il y a beaucoup de création, mais aussi une espèce de c'est dur de... Moi, pour le coup, je crée, j'écris en polonais, j'écris des choses un peu différentes, mais j'arrive plus à écrire en français, tu vois, en ce moment. Et j'en parlais justement avec Chantal du théâtre, là, à côté de chez nous, du théâtre Lille 80, avec qui on travaille souvent, à Avignon. Et effectivement, il y a une espèce de... c'est dur de créer quand la vie s'arrête, en fait. Parce que, on n'a plus trop le droit de se rencontrer, on n'a plus trop le droit de partager. Alors, il se passe des choses, bien sûr, mais... Mais il y a quand même une espèce de vie à l'arrêt qui est pas propice à, en tout cas pour ma part, je parle, à la création d'histoire, à l'envie de partage. Après, après, je sais pas du tout comment ça va se décanter effectivement sur le, sur l'envie. Est-ce qu'il y aura beaucoup de monde dans les salles de spectacle le jour où on aura le droit d'aller dans des salles de spectacle? Je sais pas, j'espère, je suis pas sûr. J'ai peur qu'on ait pris tous des habitudes un peu dures à perdre, à savoir rester à la maison, à savoir regarder des choses sur internet. J'ai peur de ça. J'ai envie d'avoir confiance aussi, dans le sens où on a très très envie tous, en tout cas moi, les gens qui m'entourent, de retourner voir des concerts, de retourner voir des spectacles, de retourner faire tout ça. Mais est-ce que ça va se instantanément, je sais pas. Je sais pas trop.
T'as anticipé ma question, hein. On a vu une nouvelle manière, je dirais, de consommer la culture, hein. Il y a eu beaucoup de créations. Est-ce que tu trouves quand même du positif de cette culture qui s'est développée sur le net?
Non.
Au moins, c'est clair.
Non, alors certainement qu'il y en a, j'en sais rien, je me suis pas vraiment posé la question. Moi, je déteste ça, voilà, tout simplement. Après, c'est paradoxal, tu vois, je viens d'enregistrer des chansons, danser encore, ça se passe beaucoup sur Internet. Mais non, moi, je suis pas, j'ai essayé de regarder un peu des copains qui faisaient des trucs sur Internet, des spectacles, je supporte pas, ça m'énerve. Je vois des festivals qui s'organisent en streaming, machin, je trouve ça. Alors, bien sûr, c'est bien d'avoir une énergie, c'est bien de continuer, je comprends les gens qui le font, mais faut surtout pas oublier que alors dans ce vaste mot qu'on dit culture, tout ça, là, ça se fait vraiment devant des gens, ça se fait ensemble, ça se fait en présentiel, quoi. Oui. Et voilà. Non, moi j'ai vraiment du mal avec tout ça. Après, c'est bon, voilà, il y a des choses très très bien qui se font, mais moi j'ai beaucoup à m'intégrer là-dedans, en tout cas.
Ouais, c'est pas nous qui allons contredire. Alors, tu disais que t'arrivais plus à écrire en français, mais pour le français, tu continues encore et toujours de reprendre notre maître, en tout cas le mien et le tien, ça c'est sûr, Renaud.
Oui, je te parlais de ça aussi, oui. Effectivement, ça c'est un petit projet que j'ai lancé avec un copain, la Titi, qui est à côté de Marseille, et on avait envie de chanter du Renaud. Moi, je chante souvent du Renaud, mais plutôt en soirée, comme ça, pour m'amuser. Et lui aussi, il faisait ça dans son coin, et on s'est dit, allez, pourquoi pas chanter du Renaud dans les bars. Et donc on a fait ça, alors là on le fait plus forcément, mais on a fait ça tout l'hiver dernier, pendant un an et demi. On a monté ce projet il y a 2 ans, je ne sais plus combien de temps. Et on était assez surpris du truc. On a fait quand même une petite cinquantaine de dates assez vite, et un petit peu partout dans les Alpes, dans le coin, dans les petits villages au fin fond des montagnes là. Et plus le village est petit, et plus il y a du monde qui vient, c'est marrant. Et on a remarqué qu'à chaque fois quand on chantait Renaud dans les grandes villes, bon, ça passait un peu à la trappe, mais par contre dès que c'était dans les petits villages, ouais, il y a les gens du coin qui se ramènent en blouson de cuir, en bandana rouge, et on chante tous Renaud toute la soirée. Tout le public connaît les paroles mieux que nous, et c'est des moments assez forts de faire des concerts comme ça, où vraiment t'as tout le public qui chante du début à la fin toutes les paroles de toutes les chansons que tu vas faire. Et alors si je m'ennuierais un peu si je faisais que ça, avoir une petite parenthèse où on se fait plaisir avec les vieilles chansons de Renaud, ça fait vraiment du bien. Ça, j'ai hâte de recommencer. Ça, c'est plutôt un projet où on fait l'hiver. Ça passe bien l'hiver, ça. Dans les bars, l'hiver, il fait froid, on chante Renaud, on boit de la bière, on est content.
Tu fais bien de préciser les vieilles chansons de Renaud, quand même. Hein.
Oui, les vieilles chansons. Bah oui, après, on a toujours ce débat après le concert. Alors, et puis, qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils chantent maintenant? On n'en pense rien. On parle même pas.
C'est clair. Est-ce qu'on aurait une chance de vous revoir en Lozère cet été?
Eh ben, il faut nous appeler.
Le message est lancé.
Faut nous appeler. Non, alors là, on est en train de programmer péniblement, parce que alors on a des propositions, mais ça se décale, on sait pas, on organise des trucs. En Lozère, je crois qu'on va jouer, mais c'est pas en Lozère, je sais plus, Sainte-Croix, Vallée Française, tout ça, la Molezon.
C'est en Lozère.
C'est en Lozère,
ouais,
ça.
Ouais.
Ouais, alors du coup, ça pareil, on devait jouer donc à Molezon, à côté du château, je crois, le 15 mai, mais c'est peut-être décalé au 29 mai, mais c'est peut-être décalé au 4 juin, donc, ouais, oui. Au 5 juin, donc on sait pas trop, voilà, donc Mais sinon, faut pas hésiter à m'appeler. Il y a mon numéro sur le site internet. Hein. Et on viendrait effectivement à chaque fois. La dernière fois qu'on est venu à Florac, c'était super. On était venu avec le groupe Picon Mon Amour. Mm-hmm. On avait partagé la scène avec Zulu, Black Band et Picon. C'était super. On était venu aussi avec vous, avec les derniers de Cordée. C'était où? C'était
à Quézac. C'était à Quézac. C'était au siècle dernier, ouais. Martin. Hein.
C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, mais c'est voilà. Dès qu'on est venu en Lozère, on était très contents. Donc on reviendrait avec plaisir.
C'est sûr. Et nous, ce serait un vrai plaisir aussi. Merci beaucoup, Martin.
Eh bien, merci à toi.
Ton nouveau projet s'appelle l'Orchestre National de Sildavi. Il y a aussi les projets avec Kashka. Et il y a encore la machine que j'adore, Zulus. Et puis, évidemment, Macadam. Et oui, tu l'as dit, on a eu la chance de partager des grands moments. On a hâte de pouvoir en revivre. À bientôt, Martin.
À bientôt. Salut.
Salut. Je mets tous les liens de tous les projets de Martin sur notre site dans un instant. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci, Corto.
Ce fut un plaisir, Ben.
Comme d'habitude, et merci beaucoup, Hugo. Merci à toutes et tous de nous suivre. On se retrouve lundi. On se quitte, oui, on l'a déjà passé. Mais voilà, vous avez compris que les aléas, c'est le direct, c'est comme ça. On se quitte avec l'orchestre de National de Sildavi. Le morceau s'appelle Allo Malo. Passez une excellente journée. Profitez-en bien. À lundi. Ciao. Chega, chega.